nous avons abordé la dernière fois la question des procréations artificielles. En même temps, nous avons vu toucher à la question de l'avortement. Nous y reviendrons la prochaine fois. Mais dans la lumière du mystère de Pâques, je voudrais que pendant les trois enseignements qui nous restent à vivre ensemble, avant de terminer l'année, puissions essayer de préciser la mission qui est la nôtre, que nous pouvons, ce que nous sommes appelés à vivre pour servir la vie, pour la défendre dans le monde tel qu'il est. Vous savez que Jean-Paul II a écrit une encyclique entière intitulée « L'évangile de la vie » pour appeler tous les chrétiens, comme il l'a dit, à construire tous ensemble une nouvelle culture de la vie face à la culture de mort qui s'étend et qui semble gagner irrésistiblement du terrain chaque jour. Alors aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans des choses très précises au niveau d'un engagement. On va essayer surtout de voir dans quel esprit on peut mener ce combat de la culture de la vie contre la culture de la mort, en ayant conscience qu'il s'agit d'abord d'un combat spirituel. La vie, a dit Jean-Paul II dans cette encyclique, l'évangile de la vie est toujours au centre d'un grand combat entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Et pour rendre compte de ce grand combat, Jean-Paul II utilise l'image de l'Apocalypse, du combat entre la femme et le dragon. Et il est revenu sur cette image dans son exhortation pour l'Église en Europe, en soulignant, ça c'était vraiment à la fin de son pontificat, c'est la dernière exhortation apostolique de Jean-Paul II, « Le combat est inégal, le dragon semble avoir l'avantage, tant est grande son outrecuidance face à la femme sans défense et souffrante. » Le combat inégal, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on le ressent aujourd'hui. Plus que jamais. La disproportion est énorme entre les moyens considérables et puissants dont sont dotées les forces qui travaillent pour la culture de la mort et les moyens dont disposent les promoteurs d'une culture de la vie et de l'amour. Et donc, si le combat est inégal, il s'agit d'en recourir à celui qui seul peut, vaincre radicalement toutes les puissances destructrices, toutes les puissances de mort. En définitive, évidemment, nous sommes ramenés à notre foi au Christ. Nous allons voir de quelle manière. Et dans sa contemplation du combat spirituel, Jean-Paul II cite ce passage de l'Apocalypse. De ceux qui ont vaincu l'énorme dragon, par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Alors c'est là-dessus que je voudrais insister. Si vous voyez, il y a deux choses dans ce combat qui assurent la victoire. Il n'y a pas simplement la parole dont ils ont témoigné, puisque c'est le combat entre la lumière et les ténèbres, mais il y a aussi le fait qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Autrement dit, la simple annonce de la parole ne suffit pas. Il faut recourir à ce qui est le cœur du mystère du salut, qui est le mystère de la croix. J'étais touché que nous ayons reçu ce soir pendant la louange le texte des pèlerins d'Emmaüs. « Au cœur sans intelligence, lent à croire, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ?» Il semble que Jésus est en train d'accompagner son Église pour l'aider à rentrer dans la profondeur du combat spirituel et pour l'aider à mettre son espérance dans la croix. Un moment où elle est amenée à connaître tant de souffrances surtout de souffrance morale, hein, où elle pourrait être tentée de se laisser abattre, tant le combat est inégal. Alors, pour rentrer dans cette, disons, participation plus profonde au mystère de la rédemption, je voudrais d'abord que nous méditions ensemble sur la puissance destructrice du péché, qui est, comme pour reprendre une expression de Jean-Paul II, un acte suicidaire. Pourquoi le péché est-il un acte suicidaire? Parce qu'il touche la relation la plus vitale et la plus fondamentale qui nous fait vivre, et qui est la relation à notre Créateur. Et du fait que le péché, tout péché, est implicitement un refus de se soumettre à Dieu, disons même plus profondément de s'abandonner à Dieu, un refus de reconnaître sa dépendance à Dieu, un refus de vivre de cette relation à Dieu, on peut comprendre que, à partir du moment où, par le péché, je me sépare de celui qui est la source de ma vie, et pour lequel j'ai été créé, comme le dit le Concile, hein, c'est l'homme qui a été créé par amour pour reconnaître l'amour de Dieu et s'y abandonner. Il faut comprendre qu'à partir de ce refus implicite de l'amour de Dieu, cette injustice première, eh bien, découle toutes les autres formes de désordre dans la vie de l'homme, tous les autres déséquilibres. Le péché, donc, est d'abord un refus de vivre de Dieu, un refus de dépendre de Dieu, et ensuite, à partir de cette fermeture de notre cœur à l'amour de Dieu, eh bien, il y a toutes sortes d'actes destructeurs de nous-mêmes, d'actes déséquilibrés, d'actes non ajustés, qui nécessairement se développe puisque l'homme a perdu son centre de gravité. Il a perdu ce qui seul peut lui permettre d'être dans la lumière et dans l'amour véritable, en se coupant de sa relation à Dieu. On peut mieux comprendre par là ce qui relie la relation à Dieu, la relation à la vie. Nous en avons déjà parlé, hein, l'homme est appelé à servir la vie en dépendance à Dieu pour coopérer à la paternité divine. À partir du moment où il fait choix de l'autonomie, il refuse de dépendre de Dieu, il tombe dans une sorte de... À la fois, il y a deux choses. À partir du moment où l'homme ne sait plus reposer en Dieu, il y a deux choses qui le marquent. C'est d'abord un affaiblissement de sa capacité à porter les choses. L'homme qui est centré sur lui-même est un homme qui n'a pas la force de porter les choses jusqu'au bout. Et être père, être mère, c'est porter la vie. Je crois qu'actuellement, beaucoup de péchés sont liés surtout à une faiblesse spirituelle, un affaiblissement de la capacité à porter l'autre. La vie, c'est quelque chose de précieux, mais c'est quelque chose aussi qui a un poids. Toute personne, en réalité, est quelque part lourde à porter. Surtout depuis que toute personne est marquée par le péché originel, c'est-à-dire par la souffrance, la fragilité. Et donc, dans toute expérience de la paternité et de la maternité, il y a un appel à porter, en acceptant le poids des choses. Et l'homme qui est coupé de Dieu et qui ne se laisse pas porter lui-même par Dieu, eh bien, est un homme qui n'a pas la force d'assumer sa paternité et sa maternité. La deuxième chose qu'opère le fait que l'homme refuse de dépendre de Dieu, c'est qu'il ne voit plus les choses dans la lumière du dessein divin. Nous l'avons vu, nous le redisons, ce qui est en jeu ici, c'est la capacité à voir les choses donc dans un regard de sagesse, d'en goûter le vrai sens et la vraie valeur. Écoutez Jean-Paul II, c'est seulement en acceptant sa dépendance première dans l'être, dépendance vis-à-vis de Dieu, que l'homme peut réaliser la plénitude de sa vie et de sa liberté. C'est seulement ainsi aussi qu'il peut respecter la vie et la liberté de toute autre personne. Respecter la vie d'une autre personne, c'est la voir dans la lumière du dessein de Dieu sur elle, pour respecter ce pourquoi elle est faite, et non pas chercher à, d'une manière ou d'une autre, à imposer, je dirais, ma volonté propre et ma pensée sur l'autre. On voit bien dans la procréation artificielle la tentation de vouloir modeler la vie au lieu de la servir. Mais pour servir la vie, ce n'est possible en définitive. Servir la vie n'est possible dans une attitude de serviteur, donc humble, qui respecte. Ce n'est possible que face à Dieu. J'ai envie de dire que pour être un bon père, il faut être un bon fils. Il faut d'abord vivre sa relation à Dieu dans un esprit filial. C'est vrai pour le prêtre, pour être un bon père spirituel, il faut être d'abord un bon enfant de Dieu, se recevoir de Dieu. Et c'est vrai aussi pour les parents, c'est au fur et à mesure qu'ils acceptent leur dépendance à Dieu, qui se vivent de plus en plus dans une attitude d'écoute de Dieu, c'est dans cette mesure-là qu'ils sont capables de servir leurs enfants, en respectant jusqu'au bout la personne de l'autre. On comprend à partir de là pourquoi l'amour humain vécu en dehors de la dépendance de Dieu, peut devenir une coquille vide susceptible d'être arbitrairement remplie. Je cite Benoît XVI. L'enfant n'est plus accueilli pour lui-même, il est accueilli relativement à mon désir, à mes projets, et je deviens incapable donc de le servir en vérité, d'assurer son vrai développement. Et c'est ainsi qu'au nom de l'amour, on peut poser des actes qui sont radicalement contraires au vrai bien de l'enfant. Écoutez Saint Jacques, chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'attire et le leur. Puis la convoitise ayant conçu donne naissance au péché, et le péché parvenu à son terme enfante la mort. Il y a trois niveaux. La tentation au niveau de la convoitise, c'est-à-dire ce que mon cœur recherche, la convoitise du cœur. L'enfant idéal, pour les parents, ça peut être de rechercher une relation finalement, souvent on recherche plus l'amour que le bien de l'autre. Mais c'est un amour possessif que l'on recherche. On a besoin de porter un enfant en soi. On a besoin de faire l'expérience de la maternité. On veut être mère, mais en réalité, c'est toujours soi qui est au centre. Donc on se donne un droit à avoir un enfant, même si c'est dans des conditions qui ne sont pas dignes de l'enfant, mais ça, on est incapable de le voir, parce que ce qui est au centre, c'est soi. Je dis donc là, c'est ce qui est à l'origine du péché, c'est-à-dire ce centrement sur soi, du fait qu'on n'est pas ouvert à Dieu. Et Saint Jacques dit, bon, on est tenté en profondeur dans mon cœur. Ensuite, la convoitise donne naissance au péché. C'est-à-dire que du fait que le cœur est détourné de Dieu, à partir de ce moment-là, il est aveuglé et naissent toutes sortes d'actes désordonnés. Et le péché lui-même enfante la mort. La puissance destructrice du péché, nous avons essayé d'en voir, avoir un peu une première perception des conséquences sur l'enfant de l'usage des techniques de procréation artificielle. On pourrait, et Josiane l'avait fait, parler des conséquences sur la mère, sur les parents. On n'a pas le temps là de développer, mais ce que je voudrais souligner, c'est que la puissance destructrice du péché, elle dépend d'abord de ce qui se passe dans le cœur de la personne. C'est-à-dire, c'est dans le cœur de la personne que vous l'avez compris, que se joue la racine de tous les actes désordonnés. On avait mis en évidence que dans les procréations artificielles, il y avait une tentation très profonde de volonté, de domination, d'un esprit de domination. C'est clair aussi qu'il y a aussi un esprit de possession vis-à-vis de l'enfant, auquel on a droit. Je dis que je crois dans la lumière de l'Évangile que tout ce qui se joue en profondeur dans le cœur des parents, c'est ça essentiellement qui a un effet destructeur, nocif dans la vie de l'enfant. Autrement dit, on ne peut pas mesurer simplement cet effet à la technique elle-même. Il y a des personnes qui vont faire une procréation artificielle en n'ayant pas conscience de la gravité objective de ce qu'elles font et n'en étant pas nécessairement mues par un esprit de domination ou de possession particulier. La technique elle-même a une puissance destructrice, mais pensons que ce qui est essentiellement destructeur, c'est le péché qui ne se voit pas. Et ça, c'est vrai, vous pouvez avoir des personnes qui utilisent des méthodes naturelles, hein, mais qui sont dans un esprit un esprit très possessif vis-à-vis de leur enfant. C'est leur chose. Et que ça fasse plus de mal qu'un enfant qui serait né par procréation artificielle. L'essentiel de la puissance destructrice du péché, en fait, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est le péché en tant que péché d'orgueil, en tant que péché qui fait qu'il y a une réelle brisure de la relation à Dieu. L'homme vit de Dieu. Quand il se sépare de Dieu, il se détruit lui-même. Mais il ne détruit pas que lui-même. Il laisse la mort pénétrer dans le monde. Donc j'insiste là-dessus, dans le regard que nous avons sur ce que les gens font, dans le concret, il faut toujours se dire que la gravité de la faute, elle est d'abord dans le cœur. La morale chrétienne, c'est une morale du cœur. Et aussi, évidemment, se dire que nous n'avons pas apporté de jugement sur la responsabilité des personnes, parce que nous ne savons pas quel est le degré d'aveuglement, hein, ni la profondeur donc de l'engagement qui est dans leur cœur par rapport à ce péché. Je suis très frappé de voir que quand c'est des personnes d'origine très simple qui se sont laissées influencer par un milieu, mais qui elles-mêmes sont des gens, comme on dit, de bonne volonté, voir ça n'a pas les mêmes conséquences. Quand on a affaire à des personnes qui, de l'intérieur, sont vraiment rentrées dans cet esprit de révolte vis-à-vis de Dieu. Cette volonté d'autonomie et cette volonté de maîtrise de la vie. C'est là où le combat est spirituel. Hein. C'est là aussi ce qui nous fait comprendre que quoi, la racine du péché, est bien dans le cœur de l'homme, là où se joue la relation à Dieu. Le péché, évidemment, il détruit d'abord celui qu'il commet. Mais en raison de la solidarité qui existe entre nous, la puissance destructrice du péché rejoint aussi les autres. Mais même le péché le plus intérieur, le plus caché, a un effet sur les autres. Soyons-en bien conscients. Il n'y a pas de péché, même le plus intime et le plus secret, qui concerne exclusivement celui qui le commet. Mais aussi, vous voyez, il y a une puissance de destruction propre au péché, puisque en tant qu'il sépare de Dieu. Mais il y a aussi une puissance du péché, une puissance de le mal du péché est aussi dans le fait que le péché a un effet de propagation, de contamination, un peu à la manière de la maladie du corps. C'est une maladie spirituelle qui tend à contaminer. Cette contamination du péché, c'est peut-être ça le plus grand mal peut-être fait dans l'expérience de la paternité et de la maternité, c'est-à-dire que un enfant qui sera né et conçu à l'intérieur d'un esprit de possession. L'enfant auquel on a droit, l'enfant qui est notre propriété, eh bien, il va être entraîné dans le sens de lui-même aimer d'une manière possessive. Ben, évidemment, il y a sa liberté qui joue, mais il faut comprendre que la propagation du mal dans le monde tel qu'il est, c'est une propagation d'abord d'un esprit intérieur qui se propage de génération en génération, qui peut se propager et qui fait qu'il y a un effet d'amplification, vous voyez, un effet boule de neige, à la fois par la souffrance causée, la destruction, et à la fois par la contamination. Il peut se voir dans des familles de plus en plus détruites, de génération en génération. Je dirais là qu'il y a une sorte d'enchaînement de péchés, vous voyez, avec en même temps cet effet de propagation du péché est d'autant plus fort que dans le cœur de l'enfant est inscrit un principe d'imitation. Dans la Bible, souvent pour au sujet des rois, notamment des rois d'Israël, qui à partir après la séparation du royaume de Juda et du royaume d'Israël, donc avec Roboam, le roi d'Israël, à chaque fois il est dit que ils ont tous été des impies, en fait, hein, jusqu'à la destruction du royaume d'Israël. Mais à chaque fois, il est dit, il fit comme son père. Ou il fit encore pire que son père.
J'ai envie de demander si dans le sens inverse, est-ce que quelqu'un, une personne qui est sainte, dans le mouvement exactement inverse, parce qu'elle est sainte, elle est orientée sur Dieu.
Si elle est sainte, elle est...
Si une personne est sainte, elle diffuse une... C'est quelque chose de positif.
Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant.
Je suis pas possible.
C'est quelle rédemption, hein? Quelle est la rédemption? Si on regarde l'engrenage du péché dans le monde actuel, on est forcément désespéré, humainement. Parce qu'on ne voit pas comment on pourrait arrêter le mouvement. Les générations blessées par le péché de leurs parents sont de plus en plus fragiles, de plus en plus incapables de résister aux tentations du monde. Ces tentations, elles tentent à se développer par le principe d'imitation. Et on sent qu'on est pris dans un engrenage de mort, multiplié par la puissance des médias. On ne voit pas du tout comment on peut sortir de ça. Alors, pour comprendre comment Jésus nous sauve, il faut comprendre la différence qui existe entre le mal et la souffrance. Pour cela, je reviens sur un exemple tout simple. J'ai eu le temps de méditer à l'hôpital. Le mal, c'est le cancer de l'âme qui nous ronge, qui détruit donc notre être, notre cœur et qui est aussi notre esprit. On peut avoir un cancer sans en souffrir, jusqu'à ce qu'il se déclare et qu'on éventuellement meure au bout de quelques jours. Le mal, c'est pas la souffrance, c'est la privation du bien. Et la souffrance, c'est quand on éprouve le mal. Si on n'éprouve pas le mal du cancer, c'est peut-être très gênant, précisément parce qu'on n'a aucun signe de la présence de la maladie, puisqu'on n'éprouve rien. Eh bien, ayez à l'esprit la parabole de Lazare et du mauvais riche. Le mauvais riche, il vit dans le mal. Son cœur, dans sa richesse, son cœur s'est détourné de Dieu et en même temps de la souffrance des autres, notamment du pauvre. Mais de son vivant, il n'a souffert de rien. Hélas. Donc, quand il tombe en enfer, c'est un passage brutal d'un état de bien-être à l'horreur absolue. Bien. Pourquoi le pécheur n'éprouve pas le mal du péché? Parce qu'il est aveuglé, endurci, affaibli dans sa sensibilité, et donc, de fait, dans tout péché, il y a un effet d'anesthésie de la conscience, du cœur, alourdi, qui fait qu'on ne ressent pas, on ressent un peu, mais on est loin de ressentir tout le mal du péché. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde? On veut dire que lui et lui seul mesure toute la profondeur du mal qui est contenu dans le péché. Lui et lui seul peut assumer tout le mal du péché, puisque lui et lui seul, est totalement uni à son Père et mesure tout le mal du péché comme séparation d'avec Dieu, de par la profondeur de son union au Père. Donc il n'y a que Jésus qui pouvait porter le poids du péché. Et il le porte comment? Il le porte dans une obéissance totale, un abandon total, une confiance totale qui anéantit et répare totalement tout le refus de dépendre de Dieu, tout le refus de s'abandonner à Dieu, tout le refus de faire confiance à Dieu. Donc, Jésus assume toute la puissance destructrice du péché, il emporte tout le poids, et c'est dans cette expérience de la puissance destructrice du péché qu'il pose l'acte d'obéissance et d'abandon le plus grand qui vient vaincre le péché à sa racine. Donc il se sert de la conséquence du péché éprouvée dans toute sa puissance destructrice pour anéantir ce qui est le mal le plus grand du péché, le refus de dépendre et d'obéir à Dieu. La souffrance qui était liée au péché sur la croix est liée à l'amour, devient la matière de l'amour le plus grand. L'amour pour Dieu le Père, comme offrande de lui-même, comme sacrifice, et l'amour pour les hommes, parce que c'est consciemment que Jésus a accepté de vivre cette obéissance jusqu'à la mort, en réparation de nos désobéissances. Donc, le péché peut être vaincu à la racine, il est vaincu à la racine, c'est comme un incendie où on pourrait enfin, je dirais, éteindre cet incendie en éteignant le foyer de l'incendie. Tant qu'on n'a pas éteint le foyer, le feu reprend. Hein? Eh bien, Jésus, il a éteint l'incendie du mal en descendant jusqu'à la racine du mal et en étant victorieux à la racine. Et cette obéissance vécue jusqu'à la mort, hein, qui nous réconcilie avec notre Père du Ciel, donc Benoît XVI la compare à une explosion atomique qui opère toute une chaîne de transformation, mais à partir de quelque chose qui s'est réalisé dans le cœur de Jésus, hein, dans le cœur de Christ. Alors, nous sommes dans un monde qui est marqué par la souffrance et c'est l'homme lui-même qui se crée lui-même un monde de plus en plus, marqué par la souffrance, surtout des souffrances de l'âme, qui poussent beaucoup de personnes au suicide parce qu'ils ne les supportent pas. Et en même temps que nous voyons ce monde souffrir, nous pouvons en même temps comprendre et voir que cette souffrance, elle a été assumée par Jésus. Toute cette souffrance liée au péché a été assumée par Jésus. Et donc, qu'elle a trouvé en lui un nouveau sens. C'est ce que Jean-Paul II appelait l'évangile de la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance puisse être le lieu de la rédemption. Mais à quelles conditions ? L'homme qui souffre à cause de son péché, ou celui qui souffre à cause du péché de ses parents, à quelles conditions cette souffrance liée au péché peut-elle devenir la matière d'un chemin de rédemption ? Nous comprenions bien dans notre cœur, le salut n'est pas automatique. Il y a la question de la liberté de l'homme. À quelles conditions les souffrances du monde moderne qui s'accumulent, toute cette œuvre de mort, de destruction qui est là devant nos yeux, à quelles conditions cette souffrance peut-elle, de fait, avoir effectivement une valeur rédemptrice ? Devenir la matière d'un chemin de résurrection, d'un chemin de salut. À condition qu'il y ait la foi. À condition que nous puissions dire oui à cet amour sauveur. Condition d'adhérer à cette œuvre de salut. Néanmoins, quand je dis la foi, ce n'est pas nécessairement une foi explicite au Christ. Écoutez le concile. La participation au mystère pascal ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Donc, l'Église nous demande de croire que même ceux qui ne connaissent pas Jésus peuvent être associés au mystère pascal. Autrement dit, que la souffrance, leur souffrance peut ne pas être vaine. Ça, comment ne pas le ressentir, hein, ressentir cette association au mystère pascal en pensant à ce qu'ont vécu nos frères juifs. Certains même se sont ont découvert le Christ en ayant cette image de la présence du crucifié dans les camps. Mais pour nous, c'est tellement évident qu'ils ont été associés sans avoir la foi explicite à ce mystère de la Passion. Donc, dans toute souffrance vécue par des personnes de bonne volonté ayant le cœur ouvert, Jésus est présent et agissant pour sauver le monde. Ça, c'est la grande espérance. Mais nous qui connaissons Jésus, nous qui adhérons consciemment à ce mystère de rédemption, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans la situation actuelle? C'est ça la question à laquelle j'en arrive, hein, qui est la question de ce soir. C'est-à-dire, comment nous pouvons faire que de ce chemin, de ce champ de ruines au niveau des âmes, de l'état des âmes, qui est notre société, post-chrétienne, comment faire pour que puisse surgir un nouveau printemps de l'esprit, comme disait Jean-Paul II. Une nouvelle culture de la vie sur un champ de mort. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu, demandent les Juifs qui ont commencé à croire en Jésus. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Est-ce que nous sommes conscients que notre premier devoir face au monde, dans ce chemin de mort sur lequel il est, c'est de nous tenir fermes et vigilants, de réveiller notre foi? Nous tenir au pied de la croix, dans la foi. Notre acte de foi conscient face à toute cette puissance destructrice du péché qui peut nous pousser à désespérer, cet acte de foi, de confiance aveugle, d'espérance aveugle en la puissance du salut, c'est ça d'abord qui laisse passer, cette œuvre de cette victoire. Hein, de la vie sur la mort, de l'amour sur la révolte. Nous tenir au pied de la croix pour recueillir l'eau et le sang qui sauvent, qui purifient, et le répandre sur les âmes, laisser Jésus passer. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que notre foi devienne aussi intercession. C'est-à-dire, je crois et j'intercède. Je crois en la puissance du salut et je porte la personne dans ma prière en la présentant au Christ pour que cette puissance de salut s'exerce sur elle. Et ça, nous l'apprenons à quel moment? Nous l'apprenons pendant la messe. Le sacrifice est célébré, il est rendu présent Et la plus grande prière, c'est la prière eucharistique, dans laquelle nous présentons nos intentions, nous prions pour le monde des vivants, des défunts, et nous exerçons la foi. Vous connaissez la prière... Vous connaissez la prière de Sœur Faustine, de Sainte Faustine, qui s'adresse au Père. « Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » Prier au nom de Jésus, se placer face au Père, implorer sa miséricorde pour notre monde, en appelant à la douloureuse passion de Jésus. Si vous le voulez, nous allons prendre le temps de reprendre cette invocation trois fois ensemble pour que nous laissions se graver en nous cette attitude spirituelle qui consiste en appeler à la miséricorde de Dieu en présentant, en offrant le sacrifice de son Fils. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Alors, on a vécu une expérience effectivement un petit peu douloureuse il y a quelques années, on vous en avait déjà parlé, dans la mesure où on sort de l'Eucharistie et notre cinquième vous annonce que il va être papa. Et on vous l'avait évoqué. Et ce qui est très intéressant, c'est en fait tout ce qui s'est passé après, et d'essayer de décortiquer, d'analyser, en fait, de voir un petit peu ce qui s'est passé. Et tout ce que dit le Père Louis et sonne tout à fait dans ce contexte-là. Et la première chose a été que, donc on lui a parlé, on lui a dit, bon, ben, on aimerait bien te rencontrer. Et sa réaction, la réaction de la future maman, était de dire « Je sais ce que vous avez à nous dire. Et donc, pas besoin de vous rencontrer en plus. » Et puis c'est là où, sortant de l'Eucharistie, on s'est véritablement, mis à prier. Et finalement, ils ont décidé de venir nous voir. Et on les a attendus, donc on a continué à prier pendant ce temps-là, on les attendait. Avec, qu'est-ce qu'on peut dire? On est bien, bien pauvre au vu de la situation. Et notre première réaction, la première réaction de la maman, de la future maman, c'est-à-dire, je sais ce que vous avez à me dire, et vous ne me ferez pas changer d'avis. Et on a dit, tu portes la vie. Donc c'est un élément auquel on était particulièrement sensible par rapport à ça. Tu portes la vie. Et donc on s'est séparés. Et quelque part, bon, bien, nous, très proches de ce qu'on cherche à vivre, pour nous, on était très touchés profondément dans... en disant, mais qu'est-ce qu'on enseigne? Est-ce que c'est juste? Et c'était bon pour, quelque part, notre humilité. Et puis on rentrait dans un week-end, de prière, une retraite qu'on avait en communauté. Et la première chose qu'on ait fait pendant cette retraite a été de dire, on va prier. On va prier pour eux. Et on va demander aux prêtres, qui les connaissaient, qui nous connaissaient, d'offrir leur messe. Donc on revient à la notion de l'Eucharistie, de la puissance de l'Eucharistie, d'offrir leur messe pour cette intention. Et on a vraiment, pendant tout le week-end, pleuré, prié, souffert, plein d'amour, compassion pour eux, pour notre fils qui souffrait, bien sûr. Bon. intervention, je dirais, leur messe, ils offraient leur messe pour ces enfants, pour nos enfants, était très touchante en fait. De voir qu'il y avait quelque part la communion des saints, il y avait la communion des saints, et quelque part, ben, on se sentait très proche. Et finalement, le week-end s'est terminé, et la décision a été prise par la maman de garder l'enfant, de continuer. Alors, et tout ça pour dire que la puissance de l'Eucharistie, la puissance de la prière, qui a duré tout ce week-end, est très forte.
Seul Jésus peut changer le cœur de la personne. On appelle le foyer du péché qui est dans le cœur. Arrêter l'incendie du mal, la puissance destructrice du péché, en purifiant et en convertissant le cœur d'une personne. Et ça, il n'y a que la passion de Jésus. Vous aurez pu discuter pendant des heures avec la personne, ça ne changeait rien. Mais nous prenons conscience qu'il faut atteindre le mal à sa racine. Le placer devant la seule vraie victoire radicale sur le mal du péché qu'est la croix, et parier d'abord sur la croix plus que sur notre action concrète. Mais l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Quand je dis aussi parier sur la croix, notre prière qui est, voyez, qui se place face au Père en présentant la passion de son Fils, en posant cet acte de foi, hein, Elle nous invite aussi, en même temps que nous croyons au mystère de la mort et de la résurrection de son Fils, à rentrer nous-mêmes dans une vie sacrificielle. Quand je dis une vie sacrificielle, ce n'est pas une vie où on se fait du mal, mais c'est une vie où on profite de la souffrance comme Jésus pour aller plus loin dans l'obéissance, plus loin dans l'abandon, plus loin dans l'esprit de pénitence. On peut aussi poser des actes volontaires de pénitence par le jeûne, des petits sacrifices volontaires, mais tout ça, en réalité, pour fortifier notre acte de foi dans la puissance du sacrifice de Jésus. Ce n'est pas nos pauvres petits sacrifices en eux-mêmes qui peuvent purifier une âme et la convertir, mais c'est la puissance de la rédemption auquel nous adhérons, pas simplement par des prières, mais par notre vie, par des actes concrets. Moi, je me souviens, étant séminariste, j'avais parlé avec une personne qui avait avorté, mais qui était une personne handicapée physiquement. Elle avait avorté, elle avait énormément de culpabilité. J'avais parlé pendant une heure avec elle pour rien, elle était dans la révolte. En même temps, la culpabilité, la révolte vis-à-vis de Dieu. Je lui ai dit, en la quittant, écoutez, je vais prier pour vous. Et puis ça m'est revenu, je ne l'ai pas vu pendant 9 mois, et je vivais à ce moment-là, je vivais dans le Massif Central, dans une ferme, et en fait, c'était l'hiver où il a fait très très froid, en 86. J'ai marché sur la Loire, elle était glacée, j'étais dans le Massif Central, et je n'avais pas de chauffage dans ma chambre. Des fois, mes doigts étaient tellement glacés que je n'arrivais plus à écrire. Oui. Mais j'ai offert ça pour elle, en même temps que des prières et quelques petites mortifications volontaires. Quand je suis revenu en Belgique, c'était en Belgique que ça se passait, j'ai eu un ami qui m'a dit, elle nous a appelé, elle nous a dit que dans la nuit, elle avait reçu une lumière et elle s'était convertie. Sans bruit de parole, vous voyez. Donc, la victoire sur le péché, c'est une victoire de la lumière. C'est sûr que le péché se nourrit des ténèbres et du mensonge, mais la lumière par la croix. C'est-à-dire que on ne peut pas vaincre les résistances à la lumière simplement par un discours bien huilé, si je puis dire, hein, mais on sait bien qu'il y a des résistances dans le cœur de la personne qui sont celles de sa révolte, qui sont celles de son orgueil aussi, ce fait. Mais il y a toutes sortes de résistances, et ça relève de la croix, si je peux dire.
J'ai un exemple aussi que j'ai vécu il y a 2 ans. Une jeune femme qui devait avorter le lundi. Le samedi, elle est passée devant la paroisse de chez nous pour aller à la gare. Et elle est rentrée dans l'église pile au moment où la messe commençait. Et elle n'avait pas mis les pieds dans l'église depuis des années. Et elle est restée assise au fond de l'église à écouter la messe. Elle a été touchée par ce qui se passait, par les paroles du prêtre. Et elle s'est effondrée en larmes. Le prêtre est allé la voir à la fin de la messe parce qu'elle pleurait tout le temps. Et elle lui a dit qu'elle avait décidé d'avorter lundi. Et lui, il lui a demandé est-ce que vous voulez bien voir quelqu'un. Elle dit oui. Et il m'a téléphoné, il m'a dit viens vite chercher une femme à l'église. Et je suis arrivée à l'église, j'avais 5 de mes petits-enfants à la maison. Ça a été un peu la course. Je suis arrivée à l'église, je l'ai ramenée à la maison. Je lui ai mis un bébé dans les bras, je lui ai dit vous allez m'aider, j'en ai 5 à garder ce soir. Et elle s'est retrouvée avec un bébé dans les bras, le faire manger, moi aussi, etc. Ma petite fille qui lui disait toutes les 2 minutes pourquoi tu pleures. Et moi, on ne pouvait pas parler parce qu'il y avait des petits avec nous. Et donc je lui ai dit est-ce que vous l'avez compris? On a dit le chapelet et puis elle est repartie. Et le lundi, elle m'a téléphoné, elle m'a dit je n'ai pas avorté. Et maintenant, elle m'envoie régulièrement des photos de ce petit. Et elle m'avait dit si je n'avorte pas, il me met dehors, l'homme avec lequel elle vivait. Et cet homme a reconnu l'enfant et il est sur toutes les photos qu'elle m'envoie.
Jean-Paul II a été un pape prophète, hein, avec un énorme charisme pour annoncer l'évangile. C'était le sportif de Dieu. Vous savez qu'il a dû passer par la souffrance très vite, en 1980, avec la tentative d'assassinat. Et ensuite, 13 ans après, il y a eu cet accident où il s'est cassé le col du fémur. Écoutez-le. J'ai compris que je dois faire entrer l'Église du Christ dans ce troisième millénaire par la prière, par différentes initiatives, mais j'ai vu que cela ne suffisait pas. Il fallait y faire entrer par la souffrance, avec l'attentat d'il y a 13 ans et avec ce nouveau sacrifice. Pourquoi maintenant? Pourquoi en cette année? Pourquoi en cette année internationale de la famille? Précisément parce que la famille est menacée, la famille est agressée. Le pape doit être agressé, le pape doit souffrir pour que chaque famille et le monde entier voient que c'est un évangile supérieur, dirais-je, l'évangile de la souffrance avec lequel il faut préparer l'avenir. Troisième millénaire des familles, de chaque famille et de toutes les familles. Le pape lui-même a eu besoin de passer par là pour comprendre cette logique de la croix. L'évangile de la vie inséparable de l'évangile de la souffrance. Fort de cette lumière reçue dans son épreuve, Jean-Paul II a appelé dans son encyclique l'évangile de la vie, a appelé à une grande prière pour la vie et il a demandé en même temps qu'on recoure aux jeunes. Disait la petite Thérèse, la prière et le sacrifice, mes armes invincibles. Je dis ici, c'est pas simplement les mortifications volontaires que l'on peut offrir pour des personnes qui sont tentées de suivre un chemin de mort, mais c'est vraiment de profiter d'abord de toutes les souffrances que le monde nous inflige, que quelquefois nous nous infligeons à nous-mêmes, même les conséquences liées à nos propres péchés. De pouvoir les unir à Jésus en les acceptant humblement. Le fait de participer à l'Eucharistie et le fait aussi de vivre l'adoration eucharistique a une puissance de réparation que l'on peut aussi offrir donc pour toutes les personnes que nous portons dans notre cœur et qui sont dans un engrenage de mort. Il y a une autre chose que je voudrais souligner, vous voyez, c'est que dans la façon même dont nous avons à défendre activement la vie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de renoncer à dire la vérité de l'Évangile, hein, et à avoir un discours aussi sur le plan éthique. pour dénoncer le mal. Mais quand on met sa confiance dans la croix, bien, on est moins tenté, je dirais, de vouloir convaincre d'une manière un peu, on va dire, un peu trop humaine. Je pense qu'actuellement, si on n'annonce pas l'évangile de la vie avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, il n'y a aucune chance que ça puisse être entendu. Mais annoncer l'évangile de la vie avec humilité, douceur et patience face à des gens qui proclament un droit à, je sais pas moi, un droit à l'enfant ou un droit à, je dirais, à faire de leur corps ce qu'elles veulent, sans prendre conscience qu'il s'agit du corps d'un autre, de l'enfant qui est en elle, mais qui n'est pas leur propre corps. Enfin, je veux dire, je ne rentre pas dans les détails des arguments auxquels on est confronté. Mais je veux dire, annoncer l'évangile de la vie maintenant, sans en même temps rester dans son cœur proche de l'humilité, de la douceur, de la patience de Jésus, tel qu'il l'a exercé dans sa passion, hein, ben c'est aller forcément à l'échec. Hein. Parce que c'est entrer dans un combat spirituel sans les armes spirituelles. Donc il y a une manière de défendre la vie, voyez, qui doit être tout entière à l'intérieur de cette sagesse de la croix. Et qui peut nous éviter aussi je dirais, d'avoir une approche, voyez, trop polémique ou trop jugeante. Je ne sais pas s'il y a des... Surtout que, je repense au témoignage qui est donné, les gens, ils savent ce qu'on pense. Donc, c'est pas tellement de leur dire c'est mal, voyez, mais d'avoir une parole de sagesse, comme tu portes la vie, un regard d'espérance sur l'enfant, là où elles sont tentées désespérées du sens de cette vie, d'une vie par exemple marquée par l'infirmité. Ce regard de foi et d'espérance sur elles, sur leur vie, sur l'enfant qu'elles portent, tout ça c'est bien plus important que le fait d'avoir une argumentation rationnelle bien construite. Et l'essentiel donc se joue... plus dans l'esprit avec lequel nous parlons de la vie que dans les arguments que nous pouvons avoir. Le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais patient dans l'épreuve. C'est avec douceur qu'il doit reprendre les opposants, en songeant que Dieu peut-être leur donnera de se convertir, de connaître la vérité, de revenir à la raison, une fois dégagés des filets du diable qui les retient captifs, asservis à sa volonté. Ne nous trompons pas d'ennemis. Enfin, je termine en ajoutant que servir l'évangile de la vie dans cet esprit-là, en mettant notre foi dans la puissance de la croix, victorieuse du péché à sa racine, c'est aussi rentrer dans un chemin de compassion. C'est-à-dire progressivement apprendre à porter les autres comme Jésus les porte, de porter en Jésus et avec Jésus. C'est-à-dire en fait laisser le Seigneur nous montrer la détresse des âmes, au-delà de la souffrance visible, mesurable. Il y a la détresse du pécheur en tant que pécheur, une détresse dont la personne peut ne pas être consciente. De laisser le Seigneur nous faire entrer dans cette compassion pour le pécheur en tant que pécheur, qui ne sait pas dans quel mal spirituel il se trouve, dans son refus de Dieu, de se soumettre à Dieu. Porter quelque chose du poids du péché avec Jésus. Vous voyez, il y a des personnes qui, par leur révolte, par les paroles qu'elles peuvent dire, pour justifier leurs actes, nous blessent. Hein. Et notre réaction d'humain face au mal-être qu'on ressent vis-à-vis de ce qui sort d'elle, de leur attitude et puis de leur parole, c'est de répondre par une certaine agressivité. De penser que la souffrance qu'elle nous cause est la matière de la victoire. Avec cette angoisse, ce mal-être, cette tristesse que l'attitude de la personne provoque en moi, je peux m'unir à la souffrance de Jésus dans son agonie. Mon âme est triste à en mourir. Et je peux rebondir dans un acte de foi en la valeur rédemptrice de cette souffrance. Et renvoyer, je dirais, à la personne qui me blesse, renvoyer non pas des paroles qui vont être des réactions humaines, mais renvoyer une force de rédemption en acceptant d'avoir à souffrir à son contact. C'est ça la compassion, en fait. D'accepter consciemment l'ébranlement, d'avoir à souffrir quelque chose au contact du pécheur qui me blesse. Parce qu'il dit, parce qu'il défend et tout ça. Et de fait, on fait l'expérience que quand on répond avec humilité, douceur et patience à des gens qui sont dans la révolte, dans la revendication et tout ça, et qui nous accusent, eh bien de fait, on sent qu'il y a quelque chose qui, de l'intérieur, se dissout du péché. Regardez Benoît XVI. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'il ne polémique pas. Hein. Il souffre. Il prie, il souffre, il offre en silence. Et il ouvre le chemin de la rédemption dans le monde et dans l'Église aussi. Voilà, c'est le modèle pour une nouvelle évangélisation qui ne se fera pas par la multiplication de moyens puissants face à des gens qui en réalité sont toujours plus puissants que nous, humainement, mais qui se fera de l'intérieur en revenant à ce qui est la source du salut.
J'ai un autre petit témoignage qui me vient à l'esprit. J'ai ma fille aînée qui a un enfant polyhandicapé et quand à l'échographie, quand le médecin a vu le fœtus, elle a instantanément, c'était très visible pour les parents qui étaient là, elle a instantanément dit « Bon, alors, on prend un rendez-vous, quand est-ce que vous êtes libre ?» Et ma fille a posé la question « Mais un rendez-vous pour quoi ?» Et en fait, le fait que elle ne comprenait pas, elle a reposé plusieurs fois des questions, mais pourquoi on prend un rendez-vous? Et elle n'avait pas l'intention de faire des leçons au médecin, mais elle ne comprenait vraiment pas pourquoi le médecin voulait un rendez-vous. En fait, lui, il voulait un rendez-vous pour l'avortement thérapeutique, parce que c'était évident sur l'échographie que l'enfant était tellement déformé. Et le fait que plusieurs fois Sophie dise « Mais pourquoi vous voulez un rendez-vous ?» et que tout d'un coup, elle réalise... Elle a mis du temps à comprendre, et c'est le fait simplement qu'elle n'ait pas compris, qu'elle n'ait pas pensé à l'avortement et qu'elle n'ait pas compris le discours du médecin, que le médecin est sorti en larmes. Parce qu'il était étonné qu'elle n'y ait pas pensé. Elle est passée dans la pièce à côté, c'était une femme, elle est sortie pleurer dans la pièce à côté. Et ça, bon, après la naissance de Philippine, elle est venue voir Sophie et elle lui a demandé une photo de sa fille. Et je me dis, mais c'est amusant parce qu'il n'y a eu aucun discours, il n'y a eu aucun... c'est simplement le fait que Sophie et son mari n'aient pas une seconde pensé à l'avortement qui l'a, elle, bouleversée. Donc c'est par rapport à ce que disait, oui, je pensais vraiment que c'était ce qu'ils étaient profondément, finalement, le fait que ça ne leur ait pas traversé l'esprit a touché en profondeur le médecin. Je trouve que c'est quand même... chouette.
Je connais Sophie, la fille d'Anne-Claire, donc qui a eu Philippine, cet enfant handicapé. Moi, j'ai toujours été touché que dans son discours, il n'y a aucun jugement sur le personnel médical. Pourtant, elle a subi des pressions, d'autres pressions par la suite pour avorter. Aucun jugement. Et maintenant, elle peut témoigner auprès de médecins, qui l'invitent pour témoigner alors qu'elle dit des choses qui sont totalement incorrectes dans le monde médical. Mais c'est audible parce qu'il y a cette humilité et cette compassion. Et ça, c'est la croix. Être conscient de ça. Là, on participe intimement au mystère de la rédemption. Je dis, c'est dans cette participation intime, en profondeur, dans notre cœur, là où se jouent les choses en profondeur, que nous devons placer notre espérance. Et non pas essayer de, je dirais, de nous durcir, entre guillemets, enfin de retrousser les manches pour essayer, dans un dernier effort, d'arriver à vaincre un monde qui est de toute façon tellement plus fort que nous. Ben oui, me dit.
Donc, ce discours-là sur les sacrifices, je sais pas, on n'est peut-être pas habitué. Moi, j'ai pas du tout été élevée comme ça à offrir des petites contrariétés ou faire des petits sacrifices. Ça m'avait toujours paru quelque chose d'un peu rétro, un peu. Et c'est en entendant, je sais pas, depuis un an, je découvre en fait cette puissance des sacrifices et tout ce qu'on peut faire avec, et toute cette rédemption, cette importance de la croix, tout ce que tu dis. Donc il est toujours temps de commencer, en fait. Il ne faut pas avoir peur, je crois que ça nous fait tous, ça nous fait grandir en fait dans notre attachement au Christ, en plus de pouvoir s'offrir avec lui, nous-mêmes, nos sacrifices, etc., de participer à la rédemption.
L'exercice le plus difficile, c'est d'offrir les tristesses, les souffrances cachées qui sont liées à nos propres péchés. Mais je pense que le regard d'espérance que nous avons sur la souffrance des autres peut les aider à rentrer dans ce mouvement d'offrande, voyez, d'offrir les souffrances qui ne sont pas offertes à tout le monde. Pas simplement les nôtres, mais celles des autres. De les présenter aussi à Dieu pour que Jésus vienne les visiter et les associer à sa souffrance. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.